Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vais évoquer pour vous les derniers moments et l'incroyable destin post-mortem de l'un de nos plus grands philosophes, j'ai nommé Voltaire. Mais au fait, Voltaire est-il bien inhumé au Panthéon ? Pour incongrue qu'elle paraisse, cette question se pose cependant bel et bien. En effet, il se trouve encore aujourd'hui des auteurs pour affirmer que son cercueil est vide. Alors, Voltaire repose-t-il ou non au Panthéon ? C'est ce que nous allons voir. Seconde partie, mystère au Panthéon.
On trouva un cadavre décharné, desséché, mais entier, et dont toutes les parties étaient jointes. On l'enleva de la fosse avec beaucoup de précaution, et il ne se détacha que le calcanéum qu'une personne emporta. Le corps fut exposé pendant 2 jours au regard du public.
Dans ce récit qu'il a fait de l'exhumation de la dépouille de Voltaire, M. Bouyrot, curé de Romilly-sur-Seine, omet de signaler qu'en plus de ce calcanéum ou os du tarse formant la saillie du talon, emporté par un curieux dont on ignore l'identité, 2 dents sont prélevées sur la dépouille. L'une échoit à l'officier municipal, M. Charon, chargé de transférer les cendres jusqu'à Paris. L'autre est donné à Antoine-François Lemaire, rédacteur au père Duchesne, qui était lié au marquis de Villette. Il s'en fera faire un pendentif, portant sur sa monture l'inscription suivante « Les prêtres ont causé tant de mal à la terre que j'ai gardé contre eux une dent de Voltaire. » C'est le peintre David et l'architecte Célérier qui sont chargés d'organiser l'apothéose de Voltaire qui doit avoir lieu le 11 juillet 1791. Le Moniteur du 13 juillet décrit par le menu le scénario de cette coproduction.
Un char de forme antique portait le sarcophage dans lequel était contenu le cercueil. Des branches de laurier et de chênes entrelacées de roses, de myrtes et de fleurs des champs entouraient et ombrageaient le char sur lequel étaient 2 inscriptions. Si l'homme est né libre, il doit se gouverner. Et l'autre, si l'homme a des tyrans, il doit les détrôner.
Le convoi, tiré par 12 chevaux blancs, mené par des hommes vêtus de toges romaines, fait d'abord un petit tour vers la Bastille. Il est accompagné de tout un attirail, bustes, portraits de Rousseau, de Mirabeau, de Voltaire, chaînes, boulets et cuirasses trouvés dans la Bastille, pyramides chargées de médaillons portant les titres de tous les ouvrages de Voltaire, statues d'or couronnées de lauriers, coffres d'or enfermant 72 volumes de ses œuvres. Le cortège formé de dizaines de milliers de Parisiens circule de 2 heures de l'après-midi à 10 heures du soir, soit 8 heures de déambulation à travers la capitale. Le corps fait finalement une entrée symbolique au Panthéon, où les travaux sont en voie d'achèvement, puis retrouve provisoirement Mirabeau et Descartes à Sainte-Geneviève. 22 ans plus tard. Une nuit de mai 1814, un commando ultra-royaliste pénètre dans le Panthéon, ouvre les cercueils de Voltaire et Rousseau, subtilise leurs restes, les emporte dans des sacs de toile et les réinhume en pleine nuit, quelque part près de la Halle aux Vins à Bercy. L'un des profanateurs, M. de Puymorin, confessera cette profanation sur son lit de mort.
Une ouverture profonde était préparé au milieu de ce terrain vague et abandonné, où d'autres personnages attendaient l'arrivée de l'étrange convoi de Voltaire et Rousseau. On vida le sac rempli d'ossements sur un lit de chaux-vive, puis on rejeta la terre par-dessus, de manière à combler la fosse sur laquelle piétinèrent en silence les auteurs de cette dernière inhumation de Voltaire et Rousseau. Ils remontèrent ensuite en voiture, satisfaits d'avoir rempli, selon eux, un devoir sacré de royalistes et de chrétiens.
Les ossements de deux des plus grands philosophes français disparaissent alors définitivement sous de vulgaires barriques de vin. Bien qu'ils aient été délestés de leurs occupants, leurs deux cercueils sont déplacés le 29 décembre 1821. Charles X, frère de Louis XVIII, est alors roi de France et a rendu le Panthéon à sa vocation initiale, celle d'une église où l'on célèbre à nouveau des messes. L'Église catholique exige que les cercueils des philosophes soient transportés suffisamment loin du cœur pour que les officiants ne viennent pas à bénir ce que M. de Puymorin appelle
les restes de ces deux philosophes impies et révolutionnaires, leur doctrine pernicieuse et leurs détestables ouvrages.
Les deux cercueils vides sont donc remisés dans les profondeurs d'une galerie où ils vont pourrir doucement jusqu'en 1830. Cette même année, ils sont rapatriés à nouveau dans les cryptes qui les abritaient initialement. Ce transfert fait l'objet d'un procès-verbal très détaillé. Mais pas plus qu'en 1821, on ne songe à les ouvrir, puisque chacun sait qu'ils sont vides. Il faut attendre encore près de 60 ans pour que l'on songe enfin à examiner leur contenu. Ce n'est donc que le 18 décembre 1897 qu'une commission de recherche formée de conservateurs, d'universitaires et d'architectes se rend au Panthéon pour procéder officiellement à l'ouverture des cercueils des deux illustres philosophes. Cela, chacun en est bien convaincu, ne devrait être qu'une simple formalité. Néanmoins, 100 à 150 personnes se massent devant l'entrée du Panthéon, argumentent à n'en plus finir et parient sur ce qu'on va trouver dans les cercueils, le vide ou alors des gravats, quoi donc. Une fois la commission de recherche réunie au grand complet, tout ce petit monde descend dans la crypte. C'est la bousculade. Des agents de police doivent s'interposer pour ramener l'ordre. La foule, nombreuse et impatiente, s'entasse dans une galerie, puis attend longuement. Déjà, le jour baisse, quand enfin, un ouvrier muni d'une lanterne ouvre la porte de la chapelle où se trouve le cénotaphe de Voltaire. On soulève le sarcophage, puis on ouvre le cercueil à coups de marteau. La tension monte. Les coups portés sur le bois résonnent dans les couloirs de la crypte, dans un silence lugubre et angoissant. À mesure que l'ouvrage des ouvriers progresse, la foule compacte s'agglutine devant le cercueil dont sont bientôt dégagées les planches arrachées. Soudain, un cri.
Il y est. De fait, au fond du cercueil, étendu sur une sorte de litière de poussière brune, il y a un squelette noirâtre, désarticulé, épars. M. Berthelot s'incline sur le cercueil béant et comme on retire un objet d'une malle, en extrait un crâne auquel adhèrent encore des bribes de peau fripées. Il l'élève de la main gauche, au-dessus de sa tête, tandis que de la droite, il l'éclaire avec la lanterne. C'est un spectacle fantastique et macabre. Le crâne semble, sous les rayons de la lueur jaune et falote, prendre vie et ricaner. D'instinct, nos regards comparent cette grimace d'outre-tombe au faciès émacié et railleur de la statue de Houdon. C'est la même expression, avec je ne sais quoi de plus aigu et de plus satanique. On songe irrésistiblement au vers de Musset. Dors-tu content, Voltaire? Et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés?
Ce récit est complété comme suit par celui de Gosselin Lenôtre, journaliste au Monde Illustré.
Au fond de la boîte restent les os décharnés. Ils forment un petit tas, perdu dans une sorte d'amadou noir et de brindilles. Reste probable des fleurs de la pompe funèbre de 1791.
À la nuit tombée, on procède à la même opération sur le cénotaphe de Jean-Jacques Rousseau, situé dans une chapelle voisine. Nouvelle cohue, nouvelle minute de silence, quand les ouvriers portent des coups de marteau sur le cercueil de plomb crevassé. Les gardiens de la paix sont impuissants dans la pénombre à canaliser les impatiences. Ils menacent de faire évacuer la crypte et de limiter aux seuls membres de la commission l'accès au cénotaphe. La cohue et le brouhaha s'apaisent alors quelque peu. Le cercueil est ouvert. La dépouille de Rousseau est bien là aussi. Le nôtre la décrit dans les termes suivants.
Les bras repliés sur la poitrine, les pieds croisés, la tête un peu inclinée sur la gauche. Quelques restes de vêtements ont subsisté, et le contraste est frappant entre l'attitude reposée et calme de l'homme de la nature et le désordre de la dépouille de Voltaire, qui semble s'être agité encore dans son sommeil.
Comment aurait-il pu en aller autrement alors que le corps du malheureux Voltaire avait été victime de toutes sortes de larcins post-mortem ? Le coup de théâtre du 18 décembre 1897 qui accompagna l'ouverture des deux cénotaphes semble ne pas avoir marqué les mémoires puisque des livres publiés de nos jours affirment encore que les restes de Voltaire et Rousseau achèvent de se dissoudre dans le sol quelque part du côté de Bercy. Or, nous avons vu qu'ils n'avaient jamais quitté le Panthéon depuis la Révolution, se contentant de quelques migrations d'un couloir ou d'une crypte à l'autre. En 1791, alors même que Voltaire entre au Panthéon, le trésor de Saint-Sulpice, église dont on a vu que le curé M. Tersac eut une grande responsabilité dans les mésaventures posthumes du philosophe, est caché dans sa chambre mortuaire. 150 ans plus tard, Saint-Sulpice rendait la politesse à Voltaire en accueillant dans sa crypte pendant toute la durée de l'occupation le Voltaire assis de Houdon pour éviter sa confiscation par les Allemands. Le trésor de Saint-Sulpice chez Voltaire et la statue de Voltaire à Saint-Sulpice, qui l'eût cru ? Peut-être cet ami de Voltaire, qui se promenant un jour avec lui, vit le philosophe saluer respectueusement le prêtre que tous deux venaient de croiser en chemin. Interloqué, cet ami demanda à Voltaire s'ils étaient enfin réconciliés avec Dieu. Le philosophe lui aurait répondu
« Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. »
Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Cet épisode a été écrit et raconté par Clémentine Portier-Kaltenbach. Il a été réalisé par Oscar Vatter. Bibliographie. La mort de Voltaire, article de Jacques Bréant, 1984. Appendice à la vie de Voltaire par Condorcet, par Gustave Avenel et Émile de la Bédolière, 1867. Le cerveau de Voltaire, ce qu'il en reste. Vario, bulletin de la Société française d'histoire de la médecine, 1927. Histoire d'os et autres illustres abattis, par Clémentine Portier-Kaltenbach, aux éditions J.C. Lattès, 2006.